Saga présente L'Arlequin Rouge, tome 1, de Masque et de Chrome, de Roberto Ricci, traduit par Mathieu Fleury et lu par Stéphane Coins. Personne ne sait vraiment quelle malédiction a permis l'existence des arlequins. Les lois collectives ne le racontent pas, ni ne les mentionnent. Ils ne sont pas non plus décrits dans les livres sacrés. Pourtant, ils existent. Certains les disent nés d'un métissage de différentes couleurs de chrome. D'autres pensent qu'ils ont été envoyés par les dieux pour nous rappeler la chance que nous avons d'être chrome en ce monde. Moi, je sais seulement que les arlequins maquillent la réalité, qu'ils se montrent à nous sous n'importe quelle couleur. Ils parlent notre langue et agissent comme nous. Nous les voyons parfois même se battre comme nous nous battons. Pourtant, ils ne sont en rien comme nous. Si un animal est massacré, ou si un nourrisson est trouvé mort, c'est assurément qu'un arlequin rôde parmi nous. Voilà pourquoi il faut prestement les débusquer et les mettre à mort, sans plus attendre. Chapitre 1er. La mise à mort d'un arlequin. Quelques jours avant mes 14 solstices, mon père décida qu'il était temps pour moi d'assister à une première exécution. « Il te faut apprendre à quoi l'on reconnaît l'arlequin, » me dit-il. Aussi terrible fut-elle, l'idée de voir enfin un arlequin en chair et en os m'excita au point qu'il me fut impossible de fermer l'œil de la nuit. Le matin venu, je mis mon masque de mort. Ce masque, c'était la mère de ma mère qui l'avait fabriqué pour moi. Il était d'un rouge cramoisi, avec des larmes noires peintes sous les yeux, comme ses lèvres. « Tu grandis avec chaque lever de soleil, » continua mon père, tandis que nous nous apprêtions à quitter la maison. Je souris et le regardai mettre son propre masque de mort. Le sien était blanc, avec pour seul ornement de sobres volutes autour des yeux et de la bouche. Un masque simple, comme l'homme lui-même. Il avait combattu dans deux grandes guerres, qui s'étaient toutes deux soldées par la victoire des Noirs. Durant la première, nous avions combattu les Chromes bleus, et durant la seconde, nous avions lutté contre les Rouges. Une fois la porte passée, nous descendîmes la pente abrupte des rues pavées de la cité d'Axiom. Déjà à cette heure matinale, la ville était animée, et nous rejoignîmes nos frères chromes qui se rendaient à la grande place. Nos longues capes de laine noire traînaient sur les pavés, et ensemble nous donnions l'impression d'être une nuée de corbeaux gauches et sans ailes. Je ne vis sur aucun visage l'excitation impatiente qui était la mienne. Je semblais être le seul pressé d'arriver, mais pas mu par l'anticipation fébrile et la peur lancinante qui, comme à la guerre, se livrait bataille au creux de mon estomac. Arrivés sur la grande place, nous découvrîmes un rassemblement déjà immense. Le ciel était gris et l'air sentait la pluie, mais les gens ne semblaient pas le remarquer. Toute leur attention était portée sur la potence de bois érigée au centre de la place. Elle était dressée au milieu de la place comme un rappel sinistre de ce qui allait s'y dérouler sous peu. Son bois solide malgré l'âge, les éclats et les taches brunâtres du sang versé durant les 100 derniers solstices. De l'autre côté de la place, j'aperçus Andahar en compagnie de son père. C'était mon meilleur ami, et je le reconnus facilement dans la foule grâce à ses cheveux blonds dont les boucles en bataille encadraient son masque funèbre. Un peu trop grand pour son visage, le masque unique, fait de bois d'ébène et décoré de carreaux aux teintes pourprées, lui avait été légué par un parent depuis longtemps décédé. Son regard croisa le mien à travers les carreaux qui perçaient son masque au niveau des yeux. Nous regardâmes aussitôt ailleurs, comme si nous avions surpris l'autre dans un moment d'intimité. Je décidai que j'irais le saluer plus tard, quand nous aurions quitté la place. Mon regard alla vers la tribune, où s'étaient installés des chromes d'autres couleurs. Curieux, je pointai la modeste chaire en bois que nous, les Noirs, avions érigée pour accueillir les représentants des autres nations. « Est-ce que ce sont les... »« Oui, les dignitaires des territoires étrangers, » confirma mon père. « Ils sont venus assister à l'exécution, tout comme nous. » Ces chromes étaient drapés d'étranges robes et arboraient des masques plus surprenants encore. Mon père me montra du doigt l'un des invités, disant qu'il représentait les violets. Il était enveloppé dans un manteau blanc et portait une ceinture et un masque violet. Mon père attira ensuite mon attention sur deux chromes, vêtus de velours bleu, ambassadeurs de la nation bleue, puis sur un autre homme, un chrome jaune, qui arborait une cape en cuir de veau d'une riche teinte safran et un masque en or. Ces dignitaires étaient drôles à voir, confinés dans leur petite tribune. Dans la grande place, noire de monde, leur présence et leur couleur détonnaient. Mon père me fit remarquer que les chromes de la nation orange brillaient par leur absence, s'étonnant du même souffle